Radio Barc, 9e de la saison, notre troisième partie, Jacques Bascou. Alors rebonjour, mais on vous a déjà entendu. Et puis, vous avez été indirectement alors mis en cause, en tout cas mis sur la sellette. Mis sur la sellette par la dernière remarque de Michel, justement sur cette façon dont le Grand Narbonne devra gérer à l'avenir le tourisme. Cette contradiction, comment vous la vivez, vous ?
Écoutez, moi je suis un ancien parlementaire et moi j'ai toujours pensé que la loi devait clarifier les choses, notamment dans le transfert des compétences.
C'est de l'humour basque.
Non, mais dans le transfert des compétences, la loi NOTRe donnait le tourisme aux agglomérations dans un schéma régional pour justement simplifier tout le comité départemental, les différentes marques. Le problème, si vous voulez, ça rejoint un peu le début de votre chronique, c'est qu'en France, on a l'association des maires, l'association des présidents de conseils généraux, l'association des villes moyennes, l'association des villes de montagne, l'association des villes portuaires. Donc, si vous voulez, ce qui se passe.
Il y a autant de lobbies dans la politique que dans l'économie.
Et donc, chacun, si vous voulez, sans avoir vraiment de vision générale et quelquefois de l'intérêt général aussi, au travers d'amendements qui sont déposés à l'Assemblée, on se retrouve finalement avec un immobilisme qui fait que la loi qui voulait changer les choses et permettre plus d'efficacité. Finalement, cet immobilisme, on l'a d'ailleurs connu aussi à l'agglomération sur le droit des sols. Vous savez, l'instruction des permis de construire, normalement, c'est l'ensemble de l'agglomération, c'est normal, puisque c'est l'agglomération dans ses compétences à l'aménagement du territoire, le PLH, enfin, tout ce qui...
Gérer les SCOT.
Voilà.
Le logement.
Donc aujourd'hui, si vous voulez, les villes principales ne sont pas dans le service, et nous avons les petites communes dont nous gérons les permis de construire. Donc si vous voulez... Sur la loi, il ne faut pas perdre l'objectif, sur la loi tourisme, ce qui est important, c'est la loi pour le moment, ou en tout cas ça va être confirmé ou pas par un vote donc à l'Assemblée en dernière lecture, permettrait à des communes de garder leur office de tourisme à périmètre communal, c'est-à-dire Gruissant, Narbonne, Le Cat, ils en ont tout à fait le droit, et bon. Mais moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir donc une vision générale de la politique touristique et de la promotion du tourisme, plutôt que d'aller chacun avec son drapeau dans des salons, il faut qu'on vende une destination, il faut qu'on simplifie les choses, et pour le moment, nous avons voté une gouvernance qui permet d'intégrer à la fois les communes littorales et également aussi l'ensemble des communes, parce que je crois que le tourisme, c'est certes, avec la mission littorale 21, une rénovation des stations suite à la mission Racine, mais c'est aussi le tourisme d'arrière-pays, d'arrière-saison, qui doit, aujourd'hui, nous permettre de développer notre territoire, en s'appuyant sur le no-tourisme, sur le patrimoine. Donc il faut qu'on ait une vision globale et aujourd'hui on a une gouvernance en fonction bien sûr des textes de loi qui nous permet de travailler ensemble justement sur une politique générale. Voilà, donc c'est une contradiction effectivement, mais je pense qu'avec la bonne volonté des uns et des autres, on arrivera à mettre en place, disons, une politique touristique. Et d'ailleurs, on essaye de travailler aussi avec les agglomérations voisines pour avoir une réflexion sur l'ensemble du littoral, du Cap d'Agde jusqu'à Le Cat, sachant que, pour répondre à votre interrogation, l'association que nous faisons avec les autres agglomérations est une association très souple qui n'augmente pas les frais de fonctionnement, puisque on reverse donc dans le pot commun, et ce n'est pas, si vous voulez, une structure de plus, une feuille de plus au millefeuille.
Voilà, donc Michel Massanto en prend acte.
Oui, surtout que elle met particulièrement à cœur celle-ci, quoi. C'est la fille aînée du triangle d'Oc, j'ai eu le bonheur.
Ça te rappelle des souvenirs de jeunesse. Alors, Jacques Bascou, vous avez implicitement souligné la difficulté dans une agglomération de travailler parfois avec certaines villes, et notamment dans cette agglomération-ci avec la ville centre. Il y a des polémiques continuelles qui naissent. Il y en a une sur le pont de Carcassonne. Il y en a une plus récente qui peut amuser un petit peu. C'est le questionnaire qui a été fait sur le service des bus et l'indice de satisfaction des Narbonnais. Alors il apparaîtrait que vous réussissez le tour de force, Jacques Bascou, d'avoir 80% d'insatisfaits sur le service des bus dans la ville de Narbonne. Que vous inspire ce genre de... Alors c'est soi-disant un sondage, une étude, enfin bon, on sait ce que tout cela peut valoir.
C'est pas l'IFOP, apparemment.
Bon.
Non, mais écoutez, le problème qu'il y a sur ce dossier comme sur d'autres dossiers, je crois que ce qui est important pour l'avenir du territoire, c'est qu'on puisse tracer des perspectives à long terme et essayer d'avoir donc une réflexion commune, ce qu'on peut avoir d'ailleurs avec d'autres maires de communes, hein, qui sont pas forcément de mon bord politique, mais d'essayer de travailler. Et donc, par exemple, sur les bus, ça aurait été utile que donc il y ait une concertation qui soit menée par la ville de Narbonne lors de du renouvellement de la DSP pour savoir quels étaient les besoins donc des habitants.
DSP, délégation de services
service
publics.
Service donc public. Si vous voulez, il y a une société de transport, donc on a renouvelé la DSP, elle était en concurrence, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui sont remontés, et donc il y a une organisation, qui a une nouvelle organisation. Alors toute organisation, bien sûr, amène des changements, et il y a eu, c'est vrai, des dysfonctionnements, ce qui nous a amené, comme c'est le cas dans la DSP, au niveau de l'agglomération, de voter des sanctions. C'est plus de 100 000 euros de sanctions financières pour des manquements, si vous voulez, notamment sur les horaires. Mais moi, ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est le petit bout de la lorgnette, parce que bon, moi, j'essaie de m'occuper du port de la Nouvelle, peut-être on en parlera, de Midipôle, de l'aménagement des zones, du tourisme sur le littoral, et puis, bon, mon ressort, les sacs poubelles ou le bus qui n'arrive pas à un quart d'heure. Alors, je me mets à la place des usagers, on va essayer de corriger les choses. Mais le problème qu'il y a, notamment sur les retards, la difficulté du transport et des transports en commun, c'est d'avoir une vision générale. Or, la ville de Narbonne n'a jamais répondu, finalement, à nos sollicitations, et la seule décision qui a été prise, et on en prend acte, c'est de supprimer les couloirs de bus. Donc, quand vous avez des bus qui sont dans la circulation, qui est de plus en plus compliquée pour X raisons, il est évident que c'est difficile de mettre en place un système de bus performant, et donc on va essayer, en liaison avec les services de la ville de Narbonne, de corriger un certain nombre de dysfonctionnements. Mais là aussi, la ville change, et donc il y a des quartiers qui se développent, et on est obligé, bien sûr, de rééquilibrer certaines dessertes. Et je rappelle que le budget de transport est un transport, c'est un budget qui est un budget annexe, qui doit s'équilibrer. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas voulu, on a augmenté le ticket individuel, mais tous les abonnements ont été diminués. Donc on essaye, dans un équilibre financier, de s'adresser aux chômeurs, aux étudiants, et il y a certains quartiers aujourd'hui, je sais que on parle de Narbonne-Plage qui serait mal desservie. Narbonne-Plage, c'est entre 2500 et 3000 personnes. Il y a 17 allers-retours à Narbonne-Plage. Si vous comparez avec des communes de la même importance, parce qu'on dit que je privilégierais les petites communes donc de l'agglomération, elles sont moins desservies que Narbonne-Plage. Donc tout ça, si vous voulez, moi je sais pas, à un moment, quand vous avez des dépenses, il faut des recettes. Et donc il faut un équilibre, et c'est facile de faire de la démagogie comme ça a été fait. Mais je pense que progressivement, les choses s'amélioreront et on modifiera point par point, puisque c'est vrai, moi j'ai vu un certain nombre d'usagers, on a changé des habitudes, et effectivement, ça peut poser des problèmes.
Mmh. Alors, Jacques Bascou, je reviens sur un petit sujet que nous avions évoqué il y a quelques semaines, où nous avions à ce même micro Alain Perea. Michel avait fait remarquer qu'à son avis, il n'y avait pas, ou il manquait sur Narbonne, un plan d'urbanisme qui irait au-delà d'un ou deux mandats, qui véritablement poserait des jalons pour l'avenir. Et alors, si je me souviens bien, Alain Perea nous avait répondu qu'un tel plan avait existé lorsque vous étiez maire, ou en tout cas lorsque vous étiez candidat, et qu'il aurait ensuite été plus ou moins abandonné, et je cite Alain Perea, Jacques Bascou l'aurait abandonné en écoutant de mauvais conseillers. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Moi, je vais vous dire, le plan, il existe, et je crois que c'était un plan qui était pertinent, parce que même si la nouvelle municipalité, donc au départ, a fait un certain nombre de déclarations, petit à petit, donc elle s'inscrit dans ce plan, c'est-à-dire la piétonnisation du centre-ville, refaire par l'urbanisation, les rues. Bon, souvenez-vous de la polémique des barques, dont tout le monde aujourd'hui se satisfait. Les barques, c'était le moyen de reconquérir le centre-ville, et petit à petit, rue Cabrirol, les autres rues, pour justement faire reculer l'insécurité, avoir une meilleure qualité. Je rappelle, puisqu'on parlait de la ville de Narbonne, qu'on travaille en bonne intelligence pour notamment la rénovation des façades, et si vous menez dans le quartier de Bourg, il y a un effort qui est fait, mais on avait notamment l'idée d'un parking sur Bourg pour revitaliser la rue Parerie, également aussi démolir certains îlots pour faire des des espaces publics, du stationnement. Tout ça, c'était un plan centre-ville. Puis le développement des berges de la Robine, attendre un peu sur le secteur des ateliers municipaux, donc où là aussi il y a des projets, et donc avoir, si vous voulez, une politique cohérente et un lien entre les trois quartiers, c'est-à-dire la Robine, la revalorisation de la Robine. Alors, je ne sais pas à qui faisait allusion Alain Perea, mais c'est vrai, par exemple, je vous prends cet exemple, des conseillers, je voulais, moi, mettre en piétonnier la rue à côté des Halles, vous voyez, la rue du 1er mai. Donc, j'avais une pétition, il y avait les commerçants, il y avait donc, à l'époque, Nouveau-Narbonne qui avait fait une campagne.
C'est pas la rue Émile Zola
C'est la rue qui est juste à côté, là, si vous voulez, où il y a maintenant des terrasses pour l'été, parce que quand on va, notamment quand on voit les touristes qui amènent un plus, sans gêner les commerces à l'intérieur des Halles, c'était intéressant d'avoir une rue piétonnière. Je vous prends cet exemple parce que quand j'ai été élu, bon, Didier Mouly a dit c'était un scandale, et puis finalement, il l'a fait. Donc les mauvais conseillers, c'était peut-être ceux qui m'avaient dit, il vaut mieux attendre après les élections pour prendre des décisions qui sont peut-être contestées et qui étaient dans un contexte politique d'une campagne électorale. Voilà, donc moi, j'ai encore l'idée du développement de la ville, parce que, si vous voulez, on risque de revenir, et c'est un peu ce qui se fait actuellement, c'est étendre la ville sans avoir de réflexion sur l'implantation des services publics, des équipements publics, des commerces, et donc là, on revient à une époque où il y avait donc... On libérait donc des lotissements, sans se préoccuper des infrastructures routières. C'est par exemple le problème qu'on a sur la route de Lebrette de Saint-Pons, où on ajoute finalement des lotissements sans avoir un plan d'urbanisme d'ensemble. Donc le plan d'urbanisme d'ensemble, c'est rénover le centre-ville, pour développer le centre-ville, y amener de l'activité et arrêter l'étalement urbain qui amène un certain nombre d'inconvénients.
Oui, Michel.
Oui, quand j'avais interrogé Alain Perea, je faisais observer que jamais, à ma connaissance en tout cas, et je maintiens mon propos, hein, jamais depuis que je connais un peu cette ville, je n'avais eu devant moi un plan en fait stratégique qui prenne comme point d'appui du développement de l'aménagement de la ville son patrimoine historique. Et à partir de là, effectivement, a dégagé toute une série d'axes de travail qui forcément nécessitent un accord des forces politiques en fait en jeu sur la ville, car on ne peut pas l'imaginer sur un seul mandat. La preuve, c'est qu'on le commence effectivement par exemple, sous Bascou, pour me limiter là, hein, avec l'aménagement des barques, et on oublie de continuer effectivement dans la droite ligne de cette stratégie-là, en prolongeant l'aménagement jusqu'au théâtre et au futur Muréna, par exemple. Et qu'on préfère la place, proposer en fait un objet qui tombe comme un cheveu sur la soupe, comme la salle multimodale, pardon, pas multimodale, multimodale, alors même, je vais en profiter ici, hein, Jean-Claude, mais dans ce qu'il en parle, j'interroge là-dessus Jacques Bascou, alors même que ce type d'équipement, par son volume, par le type de clientèle en fait, qu'il vise, par le type d'activités qui sont proposées, hein, sont par nature et par fonction de niveau intercommunal. Aujourd'hui, on sait que le parc des expositions qui est géré par Grande Narbonne et Jacques Bascou doit être rénové pour être effectivement compétitif avec d'autres parcs d'expo de la région. Pourquoi ne peut-on pas mettre autour d'une table en fait, le maire de la ville centre en fait, et le président de Grande Narbonne pour de cet équipement et de ce projet n'en faire qu'un seul à la place du parc d'expo.
Là, je repose la question, mais je ne sais pas si on va pouvoir y répondre. Pourquoi ne peut-on pas mettre autour de la même table le maire de Narbonne et
le président
de la ville?
Non, mais c'est une question que je pose à Jacques Bascou, parce que figure-toi,
Jacques Bascou, la question.
Que de nombreux Narbonnais qui ne veulent pas entendre parler de cette salle au parc des sports souhaiterait effectivement qu'on ait une réponse de monsieur le président du Grand Narbonne à cette question.
Alors, Jacques Bascou.
Mais bon, on n'a pas été souvent d'accord, mais aujourd'hui, je trouve que dans les questions qui sont posées, on est d'accord. Bon, aujourd'hui, il faut savoir quels sont les besoins des Narbonnais. Là où je suis d'accord, c'est que la vision de la ville et la vision urbanistique, ça a été dit, quand on a fait donc les barques et la rue Cabirol, on avait la rue du Luxembourg en suivant jusqu'au plan Saint-Paul. On avait également aussi, jusqu'au théâtre, et c'était non seulement dans les cartons, mais c'était pratiquement financé, tout le quai Vallière. Voilà, donc ça c'est une logique pour répondre finalement aux besoins des Narbonnais, et notamment le quartier de Bourg, quand je parle de la rue du Luxembourg, c'était petit à petit faire reculer l'insécurité, l'insalubrité, et faire de ce quartier qui est maintenant visité par les touristes, justement le lien avec le patrimoine, de faire un quartier qui soit un quartier vivant, comme on le voit à Barcelone, à Lisbonne, bon voilà, donc c'était ça. Or, on n'est pas sur la même logique avec la ville de Narbonne, dans la mesure où eux, ils sont sur un mandat, une réalisation, ce qui se passait dans les années 60-70, et on inaugure, et c'est extraordinaire, mais est-ce que ça correspond vraiment aux besoins? Alors la question précise, est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table? Oui, bien sûr, mais il faut savoir justement quelle est la finalité de ces équipements. Le parc des expositions, ça doit être un outil au service du développement économique. C'est une réalité. Aujourd'hui, dans la grande région, Narbonne est au centre entre deux métropoles, Toulouse et Montpellier. Donc on a une carte à jouer sur le développement économique qui, je le rappelle, est de la compétence de l'agglomération. En ce qui concerne une salle multimodale, la salle multimodale, il y a un besoin pour la salle de volée. Hein, c'est un serpent de mer. Bon, donc il faut voir à la mesure, si vous voulez, des besoins et finalement du public qui fréquente le volet. Donc il faut voir, et je suis d'accord, on l'a avait dit, d'étudier une salle donc, qui soit à la dimension du volet à Narbonne. On a également aussi un zénith qui est prévu dans cette grande salle. Moi, j'avais vu quelle était l'utilité. Aujourd'hui, tout le monde converge pour dire qu'une grande salle telle qu'elle est à Narbonne, il vaut mieux des petites salles comme il y en a Zinga à Béziers, Chapeau Rouge. Bon, on avait fait cette étude et d'ailleurs, on était sur un projet de rénovation de la grande de salle du palais de travail, justement, qui correspondait finalement à une jauge pour une ville comme Narbonne. Donc le problème qu'il y a, être autour d'une table, si vous voulez, pour finalement être sur une réalisation, pourquoi pas? Moi, j'essaie de travailler dans l'intérêt des Narbonnais. Je sais que des gens ne veulent pas la salle multimodale à cet endroit. Il y a peut-être un autre endroit pour implanter cette salle. Mais moi, je pose le problème du fond, et c'est pas moi qui l'ai posé. C'est la Chambre régionale des comptes. Une dépense comme celle-là, donc non seulement en investissement, mais surtout en fonctionnement, va obérer les finances de la ville. Et la Chambre régionale des comptes dit, si effectivement on fait cette salle, on ne pourra pas faire autre chose ailleurs. Alors ça, c'est le choix des politiques. C'est pas à la Chambre régionale des comptes de dicter la politique. Mais ils attirent l'attention sur le fait que si elle se fait cette salle, ça empêchera notamment de rénover les gymnases, de rénover un certain nombre d'équipements publics qui en ont vraiment besoin. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et je vais finir par ça. Moi, je pense que dans l'intérêt général, il faut tracer finalement des perspectives pour une ville. Et quelles que soient les alternances, dans la mesure où ça correspond aux besoins et à la demande des populations, on a un fil conducteur et chacun, finalement, bien sûr, amène sa touche. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que souvent, et ça a été un peu le cas, mais ils reviennent à la raison, quand il y a un changement, parce qu'on a fait une campagne en critiquant tout ce qu'a fait le prédécesseur, mais on se retrouve finalement à bloquer des projets et ça empêche finalement d'avoir, dans une ville comme Narbonne, un rassemblement pour avoir des objectifs qui répondent finalement aux besoins des populations.
Oui, merci. Un tout dernier mot. Alors peut-être Michel.
Pour illustrer la dernière phrase de Jacques Bascou, en fait, hein, trois mandats, trois plans de circulation différents.
Oui, ben voilà, c'est l'indication de ce qu'il ne faut pas faire.
Exactement.
Mais je vous signale quand même que sur le plan de circulation, le plan de circulation qu'avait mis en place Michel Monnier, on n'a pas contesté, on a essayé de travailler sur les boulevards, dans la mesure où c'était une logique qui entraînait aussi des couloirs de bus. Vous parliez des aménagements, et je vais finir par là. Sur le quai Vallière, on avait prévu de faire un sens unique, avec un aménagement un peu plus léger que les barques, mais au moins jusqu'au restaurant Le Quai, et ensuite on récupérait les places de stationnement. Mais surtout, on avait deux voies qui montaient sur le quai Victor Hugo, avec une voie dédiée à une navette, comme on avait expérimenté en centre-ville, qui permettait de relier à la fois le stade, donc le théâtre, en 3 minutes. Donc c'était une philosophie générale qui faisait que on piétonnisait la ville. Et à l'époque, on m'a dit qu'on n'était pas Lyon, on n'était pas à Paris et que les Narbonnais voulaient, quand ils allaient acheter le pain, se garer devant la boulangerie, je crois qu'aujourd'hui, c'est terminé, ça. Il faut qu'on ait une réflexion générale et une réflexion à long terme. Et je vais vous faire une confidence. Et si je me suis lancé donc dans la municipale il y a quelques années, c'est parce que ce qui m'intéresse dans un mandat municipal, c'est d'imaginer quelle sera la ville dans 30 ans et comment on pourra bien y vivre. Et c'est ça qui est intéressant. Le quotidien, c'est important, mais je crois qu'il faut tracer sur une ville des perspectives si on ne veut pas arriver à des aberrations comme on le voit dans certaines villes.
Merci. Voilà, merci Jacques Basco. Bien, c'est là-dessus qu'on conclura. On n'a pas trop eu le temps de parler de grands projets, mais ça sera pour une autre émission. La prochaine fois, nous aurons le maire de Port-la-Nouvelle, Henri Martin, qui, lui, nous parlera d'un des grands projets, alors de la Narbonnaise, pas forcément de l'agglo, mais ce sont ces éoliennes d'abord expérimentales, puis productives au large. Mmh. Et il a fait un voyage récent là-dessus et il viendra nous en parler en long et en large. Après quoi,
le maire de la Nouvelle, avec qui on avait travaillé il y a plusieurs années, donc il y avait la firme Total qui était venue, qui avait déjà anticipé il y a une dizaine d'années sur l'implantation d'éoliennes offshore. Et donc c'est une obsession qu'on avait, c'est-à-dire faire du port de Port-la-Nouvelle un port dans des filières nouvelles, notamment le développement durable.
Eh bien voilà, cette fois-ci, un projet de longue date qui est en train de se concrétiser.
Et avant ça, il y avait un projet centrale nucléaire.
Merci en tout cas, Jacques Basco, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, oui.
Merci.